Je voudrais un peu parler de cette question, un peu toujours la même, celle de ce qui rend au-delà des histoires. C'est ce que nous proposait Jean-Luc Godard la dernière fois. À partir de quelques mots dits sur l'histoire du cinéma, au-delà des histoires, au-delà de ce qu'on pourrait appeler l'historicisme, l'historicité, il y a possibilité qu'un temps advienne. Alors, au-delà des histoires, au sens où les histoires correspondent à quelque chose qui a eu lieu et qui est raconté. On connaît bien ça dans la dialectique du transfert. Il y a, et ça c'est toute l'énigme, possibilité qu'advienne un temps, celui de l'histoire. Alors, tout l'intérêt, toute l'énigme, c'est que cette histoire n'a pas eu lieu. Alors, c'est ça qu'essaie de dire à sa façon Godard. Et pour en parler, alors, c'est là qu'on arrive à la question qui nous intéresse, je pense, tout, artiste ou psychanalyste. Pour l'aborder, c'est pas de raconter quelque chose. C'est pas de raconter quelque chose. C'est quelque chose qui, en soi, est une création. Et quand cette création peut avoir lieu, elle introduit le fait que ce n'est pas celui qui l'a créé, en quelque sorte, bien sûr, qui la reconnaît comme une création, c'est quelqu'un à venir qui pourra un jour, à partir de ce qu'il aura rencontré, là, dans cette œuvre-là, c'est-à-dire dans cette œuvre qui, du coup, je crois qu'on peut appeler, advient comme œuvre d'art, s'il y a un récepteur qui, à partir de cette œuvre, pourra donc à son tour être le créateur et ainsi transmettre quelque chose de ce que l'auteur, sans le savoir, et à partir du moment où il s'est dessaisi de son œuvre, aura, je crois on peut dire ça, créé. Autrement dit, pour nous qui connaissons notamment la structure du mot d'esprit, on voit l'étroite correspondance, et c'est sans doute pour ça que Lacan s'est toujours référé à cette dialectique du mot d'esprit, on voit, et c'est sans doute pour ça aussi qu'en lisant ce livre de Lévi-Strauss, regarde, écoutez, il termine là-dessus, c'est une des dernières phrases, quand il dit que l'œuvre d'art se caractérise non pas du tout par quelque chose que l'auteur a cru pouvoir faire, puisque ça suppose que l'auteur s'en soit dessaisi, et qu'au-delà de tout ce qu'il a pensé dire, un récepteur, un jour, de la même génération, d'une autre génération, de plusieurs autres générations après, à son tour pourra créer une œuvre d'art et transmettre quelque chose qui était présent qui, alors on en arrive à l'insistance, qui en fait pour lui insistait. Insistait dans la première. À un moment, s'est mise à insister. Voilà un peu le processus. Et c'est autour de ça que nous essayons de développer dans ce mouvement, insistance, et puis dans la dynamique qui tourne autour de la revue, puisqu'on a mis ce processus à l'épreuve lors du dernier colloque. C'est tout donc autour de ça que nous supposons que peut-être approché plus exactement ce qu'il en est d'une certaine modernité. Modernité qui échappe à l'histoire au sens de la chronologie. Je vais redire un mot là-dessus parce que je pense que ce terme qui vient du latin, modo, un modernus, apparaît au VIe siècle dans on appelle ça le latin de basse époque, et il correspond avec sa référence à modo, et vous voyez que modo, c'est aussi la question qui est soulevée par le mode, la modulation. Par le biais de modo, ce qui est en jeu, c'est ce qui a un tel rapport avec le temps, modo à voir avec le temps, que a un tel rapport, un rapport si juste que c'est exactement au moment où ça doit advenir que ça a lieu. C'est ça le modo. Et donc le moderne, dans son étymologie, correspond à quelque chose qui advient au moment juste. Au XIIe siècle va apparaître l'opposition entre les moderni et les antiqui. Antiqui, c'est donc les anciens et les modernes, mais c'est une opposition qui s'établit à partir de la discussion concernant de l'interprétation des textes sacrés. Et l'un comme l'autre sont dans une position, je dirais, d'élaboration, se référant à telle ou telle interprétation, mais il n'y en a pas un qui est considéré comme ayant plus de valeur que l'autre. Et puis, vous savez ce qui va se passer, notamment en France, au XVIIe siècle, il va y avoir un certain nombre de querelles. Ça commence par la querelle du Cid, autour des 1636, je crois, des choses comme ça. Et puis après, il va y avoir la querelle autour de l'interprétation de ce qui relève du mystérieux. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la religion? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'antique? Après, on a la querelle, tout ça dans le 17e, on a la querelle des inscriptions. Est-ce qu'il faut écrire en latin ou en français, en bas d'un monument? Et puis arrive en 1675, la querelle que nous connaissons par contre assez bien, c'est la querelle des anciens et des modernes. Mais on est toujours, les anciens sont très connus, c'est Racine, c'est Boileau, les modernes sont peut-être un petit peu moins connus. Je ne vais pas déployer ce qui est en jeu, mais ce que je vais essayer de faire sentir, c'est que ce mot moderne, en fait, il va se développer comme ça, progressivement. Et puis, donc, dans ces deux positions, que ce soit les modernes ou les anciens, l'un comme l'autre développe des arguments et, même si les modernes vont l'emporter vers la fin, de toute façon, il n'y a pas véritablement une idée de ce qui ferait que il y a quelque chose qui doit conduire vers un progrès extraordinaire. Ce sont des positions dialectiques qui définissent des pensées qui sont finalement assez limitées, assez délimitées. Et puis Alors, j'en arrive là parce qu'on peut penser que la psychanalyse, finalement, n'est pas loin de ça. Au milieu du 19e siècle, à peu près au milieu, alors, à la suite de la querelle des anciens et des modernes, vous voyez qu'il y a l'ouverture à la période des Lumières qui apparaît, évidemment, c'est toute la question. Et puis, 1789, et puis, il va y avoir aussi la révolution de 1848. Il y a un certain nombre d'éléments qui se passent sur le plan politique, mais c'est sans doute pas étranger aussi à ce qu'on essaie de dire, mais néanmoins, on va rester sur l'importance de ce développement, à savoir qu'en 1825, pour rendre compte, hein, parce que vous vous souvenez, ce qui se passait avant ça, notamment sous le siècle de Louis XIV, c'est qu'il y avait des académies. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où on apprenait, hein, l'ars pigendi, c'est-à-dire l'art de peindre, on apprenait les règles pour savoir peindre. Donc il y avait des endroits qui étaient bien définis, qui avaient été définis. En France, on avait souhaité que ça soit sous la responsabilité du roi parce que dans les petits groupes qui fonctionnaient jusque-là, il y avait eu un peu des abus d'autorité. Donc, après, vont apparaître vers le milieu du 19e siècle, c'est là que je voudrais qu'on arrive et qu'on s'arrête un peu, parce qu'on n'est pas bien loin de la naissance de la psychanalyse. Donc, à partir de ce mot moderne, en fait, au milieu du 19e siècle, ce mot change de sens, on pourrait dire, c'est-à-dire quelque chose qui se retourne. C'est plus une position définie, limitée, où on donne son avis. Ce qui est moderne va en fait, comme un autre mot qui s'appelle l'avant-garde. Avant-garde, c'est un mot qui apparaît dans le langage militaire, notamment en 1825. C'est un mot qui va être pris par Saint-Simon. Sous le biais de cette avant-garde, hein, à titre de référence, ancien, ça vient d'ante, ça vient d'avant. Hein. Il n'y a pas cette terminologie-là auparavant. Donc, il y a quelque chose qui se passe au milieu du 19e siècle, et ce quelque chose, on peut en quelque sorte le suivre à partir de ce moderne. Pour autant que, à ce moment-là, en fait, moderne va glisser, va changer un peu, va carrément glisser du côté de l'avant-garde. Et qu'est-ce que c'est que l'avant-garde ? C'est un mouvement où il s'agit de partir dans une course assez effrénée vers le progrès. Et on peut voir, à partir de là, on ne va pas en parler maintenant, mais on peut voir que toute la dimension du socialisme va partir aussi du progrès social, va partir de là. D'autant plus qu'on en avait déjà parlé, le mot progressus, c'est un mot militaire qui est utilisé par César dans la guerre des Gaules. Donc vous voyez qu'il y a comme ça des mots qui finalement partent d'un jargon militaire, avant-garde, progrès, et qui vont s'introduire dans la dimension du social, dans la dimension artistique. Et en 1845, je crois que c'est la première fois que le mot avant-garde apparaît comme chez un critique d'art. Alors, ça ne donne que plus de valeur à ce qui a lieu à la même période par Baudelaire, c'est-à-dire cette protestation esthétique de Baudelaire, qui va dire, et là, je crois qu'on est effectivement très proche de ce qui est en jeu dans le transfert, qui va dire que la beauté, hein, c'est ça qui m'intéresse, l'expérience esthétique, la beauté, c'est quelque chose, effectivement, qui tient. Et il redéfinit, il revient, il redéfinit la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. Ça, c'est la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Alors, en d'autres termes, ce que Baudelaire, en quelque sorte, essaie à ce moment-là de transmettre, c'est de revenir sur la question de la modernité comme n'étant pas uniquement ce qui se développe, cette course un peu vers le progrès, mais que ça doit surtout tenir compte de l'éternel et de l'immuable, c'est-à-dire de quelque chose que nous entendons dans notre façon d'être travaillé par ce qui est là et qui peut justement, à un certain moment, être le lieu d'une certaine présence. C'est pas du tout quelque chose de fixé, l'éternel et l'immuable. C'est quelque chose qui peut être l'objet, qui peut être le lieu d'une certaine présence. Et on en a parlé au niveau de la peinture, avec par exemple Nicolas Poussin. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, au-delà des lignes et des couleurs, peut apparaître sur un tableau, au-delà de ce qui est visible, de ce que l'on peut comprendre, des personnages. Alors c'est là, fugitivement, c'est une expérience du fugitif, du contingent, la moitié de l'art. Il y a au sein même de cet immuable et de l'éternel quelque chose qui relève du fugitif. Et toute la question, c'est ça la protestation de Baudelaire, c'est de dire que la beauté, c'est la rencontre de ces deux éléments. Et du coup, on est arraché à la querelle des anciens et des modernes, on est arraché à l'espérance un peu folle de ce qui se développe. Pourquoi pas, c'est pas tellement ça, mais on essaie de voir un peu ce que ça peut donner en regard de l'être parlant dans son rapport à ce qui lui échappe, et notamment dans la création artistique. Donc, ce que Baudelaire essaie de faire entendre, c'est ce que on peut tout à fait dire ultérieurement, notamment avec Lacan, c'est qu'il y a une division radicale, que la division, c'est pas l'opposition, c'est même exactement l'inverse. La division, c'est la mise en continuité. À un moment, c'est pour ça que le mot modernus est important étymologiquement, puisque ça, c'est un certain rapport au temps, mais pas un temps qui se déroule en disant il y a les postmodernes, les bon, ça c'est du bricolage du temps dont on a besoin, sans doute pour se repérer, mais c'est un certain rapport au temps et à l'espace. Mais le moderne, étymologiquement, et comme le rappelle Baudelaire, c'est le moment où apparaît, chez l'être parlant, la rencontre avec la division. Cette division, cette mise en continuité, que l'on peut tout à fait, nous psychanalystes, repérer au lieu de l'autre, et qui est le premier temps indispensable pour qu'advienne ce fugitif, cet insaisissable qui est le sujet. Donc on voit que, alors on pourrait faire aussi un tour du côté du romantisme, etc., mais je ne vais pas trop faire. Pour introduire ce soir, c'est situer que finalement, ce qui est proche, ce qui rend la science, la création artistique, la dialectique du transfert très proche, c'est sans doute l'apparition d'un moment particulier où une rencontre intervient. Ce qui a fait dire à Lacan que, effectivement, l'analyste avait à prendre de la graine de l'art. Donc, voilà un peu comment. Alors, bien sûr, à partir de là, on pourrait enchaîner un peu plus sur Freud, puis après sur Lacan, mais je pense que j'ai essayé de le faire sentir, justement, en le présentant de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui dépasse ce dont on peut s'approcher avec la pensée, avec le sonore, avec donc ce que l'on peut entendre avec ses oreilles ou ce que l'on peut voir avec ses yeux. Et il importe même qu'il y ait ce moment où ce qui recouvre, c'est-à-dire l'espace spéculaire et le temps, on va dire spécularisé aussi, apparaissent. Donc il importe que ceci plus exactement non pas apparaissent, mais disparaissent pour que ce temps du modernus, de la modernité, au sens de Baudelaire, et pourquoi pas de, et pourquoi ne pas le garder, puisse soudainement mettre en mouvement un être parlant. Alors je crois que c'est une des façons d'approcher ce que Lacan va appeler justement ce qu'il va dire. Moi j'ai inventé, si j'ai inventé quelque chose, hein, je vous rappelle le séminaire d'avril, 9 avril 1974, moi qui suis devant vous, Lacan, je me suis posé ce matin la question, mais qu'est-ce que j'ai inventé? Eh bien voilà, je peux vous dire que j'ai inventé quelque chose, et ça c'est l'objet petit a. L'objet petit a, pour autant qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne peut pas, en fait, quand il joue la fonction d'objet petit a, être saisi comme tel, et il va dire durant ce séminaire, à propos de la voix, après tout, si vous êtes tous là autour de moi, là, hein, si vous êtes là, dans cette arène, comme il dit, hein, ben c'est. Moi, je vous dis que c'est pour une chose, c'est parce qu'il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est pas ma voix, c'est parce que vous entendez, contrairement à ce que vous pensez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'entendez pas avec vos oreilles et qui pourtant est présent et qui soutient, hein, et il va dire à ce moment-là, l'objet petit a, la voix comme objectita est strictement l'ascension avec laquelle ce que je vous dis, je vous le raconte. Alors, je crois que c'est autour de ça que tourne la question de la modernité, et c'est autour de ça que, du coup, cette question de l'histoire avec un grand H, chacun à sa façon, suivant, on pourrait dire, le savoir-faire symbolique qu'il a avec le réel, peut essayer d'en rendre compte. Alors, Godard, hein, vous savez, dans ce qu'il explique à ce moment-là, c'est que, lui, l'important, il dit, on part du deux. On part de deux images qui sont ensemble, juxtaposées. Ça, c'est le point de départ. On part du deux, S2, on pourrait dire, on part du deux, et ce qui est important, c'est l'image qui va résulter de ces deux images. C'est quand même étrange, on est très proche de l'enseignement de Lacan, hein, c'est quand même assez proche, étant donné que l'image, pour lui, évidemment, c'est pas spécialement ce qui est visible en tant que tel au sens habituel de l'image. Et donc, on pourrait dire que l'histoire, c'est l'apparition de ce moment, de ce qu'il appelle lui l'image. Il dit même pas une troisième, il dit c'est l'image. L'image résulte de ces deux images. Et en fait, ce qu'il essaie de faire notamment dans cette œuvre là que l'on peut supposer être comme une œuvre d'art qui s'appelle Histoire du cinéma. C'est l'importance à travers ce que l'on voit de ce qui est entendu. Quand il discute, il dit, vous, quand vous me parlez de quelque chose, vous me parlez de quelque chose que vous avez lu dans un livre. Alors j'entends par exemple ce que vous pouvez dire, je peux même voir votre situation, mais finalement tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est des sons. Alors, là j'y vais fort. Est-ce que c'est pas ça qui se passe chez un analyste? Autrement dit, qu'est-ce qu'il entend, parce que c'est toujours la même question, qu'est-ce qu'il entend à travers tout ce qu'il lui a raconté? Est-ce qu'il peut entendre des sons, notamment? Bon, on pourra reprendre ça dans la discussion. Alors, On est un peu en retard. Je voudrais dire, parce que je voudrais qu'on discute un peu de tout ça, c'est pour ça qu'on est là. Si, et c'est quand même l'hypothèse du transfert, c'est l'hypothèse que fait Lacan à partir de l'enseignement de Freud et de sa pratique, et de ce qu'il a rencontré dans son périple, dans le séminaire encore. Si, effectivement, il appelle ça l'os de ce qui est l'os de mon enseignement. Si ce qui est nouveau, ce qui introduit de radicalement subversif, hein, la question du Saturne dont on a parlé, non pas du Saturne, si la psychanalyse introduit quelque chose de radicalement subversif, c'est le fait, dit-il, que je parle. Parle, c'est pas la première personne, c'est la troisième personne. Je parle sans le savoir, et j'en dis plus que je n'en sais. Alors, dans quelle mesure ceci, parce que c'est ça qui nous intéresse, dans quelle mesure ceci peut soudainement nous être transmis. Alors je vais finir sur quelque chose que j'ai entendu il y a deux jours, en disant le minimum de choses, mais je crois que c'est important parce que il y a deux jours, je reçois en consultation une maman qui vient avec sa fille de 10 ans. Et elle vient me dire, ils entrent toutes les deux dans mon atelier, mon bureau. Et la maman explique que, elle vient parce que sa fille n'arrête pas de tousser. Elle n'arrête pas de tousser, c'est une toux alors sèche. Hein. Elle tousse à partir du moment où la nuit tombe. Avant, ça c'est depuis une semaine, et puis avant, pendant un an à peu près, elle était angoissée à partir de 5-6 heures le soir. Maintenant, elle tousse. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? On écoute, etc., on écoute. Et à un moment, elle dit, je ne sais plus exactement comment elle l'a dit, mais pour moi, seulement je ne m'en suis pas bien rendu compte, mais après ça a produit des effets, je vais vous dire comment. Elle dit, tout ceci, ça a commencé quand, alors, la tante est morte il y a un peu plus d'un an. Alors, elle le dit de telle façon que, elle dit sa tante, mais quand, comme elle le dit, en fait, on ne peut pas bien savoir si elle parle de sa tante à elle, ou si elle parle de la tante de sa fille. Donc, vous voyez qu'il y a une différence, c'est pas qu'une différence de génération, il y a quelque chose qui passe, à mon avis, dans la voix, à travers ce possessif qui est au-delà du possessif. Alors, à partir de là, je lui demande à l'avance si elle avait autre chose à dire, donc comme elle n'avait plus rien à dire, je lui dis, si vous voulez me laisser avec c'est Noémie, avec sa fille. Et ce qui m'a étonné, c'est que moi, je me suis mis à parler. Donc, je suis en face de Noémie qui, bouche cousue, ne dit rien. Ça n'arrête pas. Ne dit rien. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est que je me suis surpris en train de me mettre à lui parler. Je ne sais même plus exactement ce que j'ai dit, mais je suis mis à lui parler. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de d'exhibition. Au sens du latin. Ex, ça veut dire sortir de. Ibition, ça vient de aberrer, c'est avoir quelque chose qui sort. C'est-à-dire quelque chose qui sort. Et à un moment, Noémie s'est mise à parler. Et quasiment, elle ne tousse plus à ce moment-là. Donc ça, on arrête là-dessus. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, puis d'ailleurs, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est ceci. C'est que je me suis dit après, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis à parler comme ça? Impossible évidemment de répondre. Et puis en parlant de ça, en parlant un petit peu de ça, en en parlant avec Daniel, parce que je vais peut-être toujours dire ce soir, parce que je ne sais pas trop exactement comme ça va s'articuler. Je fais, en parlant de tante, résonne en moi sans doute une note que vous connaissez qui est à la fin des trois essais sur la sexualité de Freud, 1905. Alors, c'est assez étrange parce que quand Freud écrit les trois essais sur la sexualité, il écrit en même temps le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. On peut penser que sur une table, il y a le manuscrit de l'un, sur l'autre table, il y a le manuscrit de l'autre. Voilà les deux images, d'une certaine façon. Or, manifestement, dans le vide, dans le mot d'esprit, hein, il est pris par quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait comparable à ce qu'il développe dans les trois essais. Et pourtant, quand il arrive dans les trois essais à parler de l'angoisse infantile, il explique que l'angoisse est liée au fait que la libido, ne pouvant plus investir la personne aimée parce que la personne aimée n'est plus là, la libido se transforme en agressivité et en angoisse. Bon. Et alors vous savez, hein, vous savez l'importance des petites notes, hein, tout en bas, il parle d'un mécanisme puéril, enfin c'est la traduction, je n'ai pas regardé en allemand exactement quel point, on peut penser que c'est un bon terme, et il y a une petite note qui renvoie tout à la fin du livre à une autre note. Alors voilà l'autre note, peut-être que je l'ai dit l'an dernier, le séminaire, je ne sais plus. Cette autre note me semble tout à fait importante parce que Freud dit, enfin écrit, je me souviens, enfin je ne sais pas si c'est ça, je paraphrase, je me souviens, je dirais comme ça tout d'un coup, parce que c'est comme ça que je pense que ça s'est passé, même s'il ne le dit pas comme ça, là, c'est l'histoire du contingent là. Je me souviens tout d'un coup là, en vous parlant de ça, en écrivant ça, je me souviens tout d'un coup de quelque chose qui m'a surpris, de la part d'un enfant de 3 ans. Alors, voilà de ce qu'il s'agit. Un enfant de 3 ans s'écrit, hein, c'est le mot, c'est un cri dans le texte, dans le texte allemand, s'écrit parce qu'il a peur du noir le soir en s'adressant à sa tante, voilà la tante qui apparaît, il lui dit « Tante, sprich mit mir, parle avec moi. Ich fürchte mich, j'ai peur. Weil es ist dunkel, parce que c'est sombre. Dunkel, c'est. Hein, donc, c'est une... Alors, voilà le petit garçon qui s'écrit, alors, c'est l'importance du cri, enfin, pour moi, là, pour arriver peut-être justement à quelque chose de l'histoire, c'est quelque chose qui est. Ce réel qui peut être pris en charge par le symbolique, là. Et. Évidemment, la tante en question, elle a édifié ses mécanismes. Elle lui dit, va s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu ne vois pas? Puisque tu ne me vois pas, à quoi ça sert? De parler, puisque tu ne me vois pas. C'est ça qu'elle lui répond. Et le petit garçon lui répond, Das macht nichts, ça ne fait rien. Wenn, au moment où, à partir du moment où, c'est ça le moderne, la temporalité, wenn jemand spricht, quand quelqu'un spricht, sprechen, c'est pareil en allemand, hein, c'est pas reden, hein, c'est pas causer, hein, quand quelqu'un sprach, prends la parole. Quand quelqu'un parle, es ist elle. Ça devient éclatant. Éclatant. C'est-à-dire ce petit bonhomme. Et Freud raconte ça. Freud met cette note-là. Je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il transmet. Parce qu'il transmet manifestement ce qui est au cœur de la voix, au cœur du cri, au cœur de cette dimension-là. Et du coup, après ce périple qui a été le mien là-dedans, évidemment, je ne sais pas grand-chose, mais je me demande ce qu'est ce tout de cette gamine, qui pourrait dire une toux spasmodique, mais qui manifestement est une façon de je ne sais pas quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui qu'on a un peu de temps pour parler.
En vis-à-vis de moments, et après j'aime bien ton cœur, le moment où tu parles, ou un moment où tu dis, je rappelle l'importance de ce qui est entendu à partir de ce que l'on voit. L'importance de ce qui est entendu à partir de ce que l'on voit. Et vis-à-vis de l'autre moment, où tu cites l'épisode produit du petit enfant, qui est dans le dunka, et qui dit, donc, tu ne vois pas, et qui dit, ça ne fait rien, quand quelqu'un parle, ça devient clair. C'est clair. Je ne sais pas si ça devient, c'est. J'aime bien ces deux vis-à-vis. C'est comme si la formule était inversée. Parce qu'elle me fait. Elle peut-être nous incite-t-elle à la question de l'écho. Que ça me permet de travailler vers l'écho de la voix. Pour le dire à la façon de Virgile dans les Géorgiques. L'écho de la voix, dit-il, c'est. Une vocis imago.
Ah ouais?
L'écho. Pas l'écho de la voix.
Oui.
L'écho, c'est de la vocis imago. Et ça, c'est intéressant. Là, c'est deux façons, tu vois, de pointer le moment, peut-être le moment moderne, la question du moderne,
oui.
La question du temps de division. Là,
oui.
Ce point, c'est la division.
Oui.
C'est-à-dire. Du scopique à la coquille, de l'imago à la vox, en écho, vox imago, ou vocis imago, pardon. C'est dans les jeux avec.
Qu'une des façons de. On en a parlé. C'est vrai que si cette division, on sait que c'est important dans le cadre du transfert, mais. Et. On peut dire peut-être, je sais pas, fort close, enfin, je sais pas. C'est un peu comme ça qu'on a abordé la question du nazisme, par exemple. Hein? C'est-à-dire un expressionniste qui se résume effectivement à l'expression de quelque chose le plus le plus intentionnel possible, en sachant que ce qui importe, c'est que celui qui regarde et qui entend n'est même pas l'ombre d'une conscience, quoi, qui peut penser. Alors, ce qui est important, c'est, il me semble, c'est notamment dans le transfert, c'est effectivement, cette gamine, là, ce qu'elle apporte, à mon avis,
je sais pas, hein, je sais pas du tout, mais là, en l'espace de 2 jours, moi, j'ai dit un peu, entre autres, comme ça, ce qui est le trajet que j'ai fait par rapport à ça, qu'est-ce qui fait, comme le dit Lacan vers la fin de son enseignement, que la psychanalyse est une pratique du bavardage? Quel est l'intérêt du bavardage? Pour autant que c'est pas de communiquer, c'est pas ça. Alors quel est l'intérêt de cette bave, de ce postillonnage qui est dans la parole, de cette affaire-là, de ce qui est la manifeste par cette toux, par exemple. C'est un peu ça que m'a ramené cette gamine de 10 ans là, par le biais de tante. Et par le biais de Freud, c'est là on voit bien que, me semble-t-il, qu'est-ce qui reste de ce qu'on peut lire de Freud? Il y a tout ce qu'on a pu apprendre, mais peut-être qu'il peut y avoir parfois quelque chose qui est, mais justement, qui pose la question du temps pour le récepteur qui lit Freud à un moment particulier. Et je trouve que ce moment-là, quand il écrit ces 2 ouvrages-là, du coup, moi, je renverserai les choses, c'est-à-dire, je pense qu'il écrit les 3 essais. Alors, c'est assez insolite de dire ça pour parler de la voix. Et alors, je tombe là-dessus sur une citation de Lacan extraordinaire qui dit sur la pulsion. Ça va te faire plaisir, Alain, si je la retrouve. Est-ce que je l'ai amené? Oui, ceci, parce que c'est au cœur des débats de ce que nous renvoient parfois certains psychanalystes. La pulsion est quelque chose. Alors, ça, c'est le 15 novembre 77. La pulsion est quelque chose qui ne se supporte que d'être nommé. Nommé d'une façon qui la tire, si je puis dire, par les cheveux, qui suppose que toute pulsion est sexuelle. Au nom de quelque chose qui se trouve exister chez l'enfant. Mais rien ne dit que quelque chose mérite d'être appelé pulsion avec cette inflexion qui la réduit à être sexuelle. Je trouve là il y a un truc. Et il ajoute, ce qui dans le sexuel importe, c'est le comique. C'est quand un homme et femme qu'il aime. C'est fantastique. En 2-3 lignes, il renverse tout. Oui. Tu veux que je relise? C'est le 15 novembre 77. C'est la pratique du bavardage. Une pratique, c'est le texte établi par Miller. Bon, j'avais déjà repéré un peu, mais bon. La pulsion est quelque chose qui ne se supporte que d'être nommé. Nommé d'une façon qui la tire, si je puis dire, par les cheveux. Ah oui, bon, bien l'image, hein. Alors, d'une façon qui la tire, d'une façon qui présuppose que toute pulsion est sexuelle, au nom de quelque chose qui se trouve exister chez l'enfant. On ne peut pas ne pas être d'accord. Mais, voilà, il y a un mais. Et moi, je pense que je n'ai pas beaucoup assisté au séminaire de Lacan, mais je pense qu'il devait parler comme ça. C'est ce qui compte, c'est justement les postillons, tout d'un coup, qui arrivent. Les mais, comme ça. Hein. Mais rien ne dit que quelque chose mérite d'être appelé pulsion avec cette inflexion qui l'a réduit à être sexuel. Voilà. Je trouve que...
Il nous reste totalement dans
Et immédiatement, ce qui dans le sexuel importe, c'est le comique, c'est quand un homme et femme qu'il aime, c'est-à-dire au moment où il aspire pour quelque chose qui est son objet. C'est vrai. C'est la fin du sexe.